Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Je pense que ça doit aller mieux pour vous ce matin. Vous avez sans doute poussé un soupir de soulagement hier, en fin de journée, en entendant ce petit déconfinement expliqué par notre premier ministre François Legault. Soupir de soulagement, surtout si vous êtes dans l'une des 6 régions, que vous nous écoutez en région, là, que vous soyez en Gaspésie, de la Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Abitibi, Témiscamingue, nord du Québec, Côte-Nord. On en profite d'ailleurs pour vous saluer. Merci d'être à l'écoute. Donc, à partir de lundi, pour vous, ben, c'est un changement de couleur. Vous passez du rouge à l'orange. Alors, moi, si j'étais à votre place, je serais vraiment contente. En même temps, il faut bien se rendre compte que c'est à peu près 10 % du Québec. La majorité des Québécois vivent, on peut dire quasiment 90 % du monde, vivent dans des zones rouges. On le dit souvent, je vous le rappelle hein, souvent, hein, plus de la moitié du Québec vit dans la grande région de Montréal. Donc, qu'est-ce que ça change pour les Montréalais? Bien, pas énormément, mais quand même, on nous a donné un petit peu d'air. Puis là-dessus, je veux vous entendre au cours de la prochaine heure. Dites-moi si vous en aviez vraiment besoin. Je pense qu'on l'a beaucoup dit. Une chose qu'on ne peut pas reprocher au premier ministre, c'est de ne pas avoir entendu les Québécois. Je veux dire, on a passé des journées à entendre des problèmes de santé mentale des gens, les gens dire « Écoutez, moi, j'en ai pas de problème de santé mentale ». Puis là, je commence à en avoir. Donc, il y a ça qui a été écouté, j'ai l'impression. Oui, un petit peu d'air. En même temps, vous êtes peut-être inquiet du côté peut-être prématuré de la chose. Auriez-vous aimé qu'on attende encore une semaine ou deux? Il faut quand même le dire. Il n'y a eu qu'une seule journée où on a été en bas de la barre psychologique du 1000 cas, hein, cette espèce de barre qui est souvent présentée par le docteur Arruda. On l'a été qu'une fois. Donc, on verra aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on va être aussi en bas du 1000. On va se le souhaiter. Hier, c'était 1037, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'on est dans la zone. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Ce qui fait dire au premier ministre Legault qu'on garde certaines affaires.
On garde le couvre-feu. On garde l'interdiction des visites dans les maisons. On garde le télétravail obligatoire. On garde les restaurants, théâtres, cinémas fermés, sauf pour 6 régions.
Alors, c'est assez clair. On garde quand même le couvre-feu. François Legault estime qu'il y a un intérêt, surtout un impact important. Dans les régions orange, ce sera à partir de 21h30. Mais pour la majorité des Québécois, ça demeure à 20h. Nos numéros pour nous joindre, nous dire comment vous allez vivre ça, quelle a été votre réaction là au lendemain matin avec cette tempête qui nous est arrivée, qui nous est tombée dessus. Comment vous le vivez? Est-ce que vous êtes content, soulagé? Pensez-vous que c'est une bonne idée? Avez-vous l'impression d'être entendu par votre premier ministre? Ou est-ce que vous pensez que là, ben peut-être un petit peu trop tôt? 514-790-9850 pour nous le dire dans la grande région de Montréal. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. On va rejoindre tout de suite le professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Benoît Masse. Bonjour, Monsieur Masse.
Bonjour.
Comment vous vous êtes réveillé, vous, ce matin, après cette annonce?
Ben, je dois dire, moi, il y a un groupe qui me... Franchement, j'ai beaucoup d'inquiétudes là, qui, depuis même la première vague, c'est les étudiants.
Ouais.
Au cégep, aux universités. Bon, c'est sûr qu'on ne sait pas si les cégeps et les universités vont vraiment prendre la balle au bon, là, mais c'est quand même un grand groupe. Là, on parle de 175 000 étudiants au cégep, un autre 250 000 aux universités. Vous allez me dire, une journée par semaine, c'est pas énorme, mais c'est un groupe qui a vraiment besoin de se retrouver à certaines habitudes de se voir, de travailler en classe, ainsi de suite. Alors, c'est sûr que ça me réjouit. C'est partiel, mais quand même, c'est une priorité. Je suis content qu'on commence déjà à penser à ouvrir les cégeps et les universités.
Effectivement, puis je pense que vous le dites très bien, Benoît Masse. Moi, hier, tout de suite, j'avais ma fille qui était justement, ma fille qui est au cégep. Une de mes deux filles est au cégep, l'autre à l'université, puis les deux vivent pas mal ce que beaucoup de jeunes vivent. Et probablement, comme bien des parents du Québec, en écoutant M. Legault, je me suis tout de suite tournée vers elle en lui disant « Tu vas pouvoir retourner à l'école pour vrai! » Et vous auriez dû voir son visage rayonnant, même si c'est pas beaucoup. Le fait d'y aller graduellement, je pense que c'est aussi rassurant. Ça va sans doute permettre à ces institutions de mettre des mesures en place. Mais ça, c'est sûr que c'est sans doute un soupir de soulagement pour beaucoup de jeunes là, qui le disaient au cours des derniers jours là, que c'était plus possible. En même temps, Il y a plein d'autres éléments là, à ce petit déconfinement. Puis je pense que l'élément qui peut en inquiéter plusieurs, puis on va voir ce que nos auditeurs en pensent, là, c'est qu'on se dit pourquoi on a quand même qu'une seule fois là, été en dessous du 1000 cas par jour. Pourquoi déconfiner si rapidement? Il y en a qui peuvent trouver quand même qu'il y a un certain côté prématuré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, en fait, on est dans la bonne direction, c'est-à-dire que on était quand même, il y a un mois, là, on frôlait le 3000, là, vous souvenez?
Oui, il y a moins d'un mois, je pense.
Oui. Et là, on a réussi vraiment à freiner non seulement cette montée-là, mais à la réduire. Mais il y a encore du délestage, donc c'est pas fini, il faut continuer et... Par contre, les inquiétudes du gouvernement sont à trois niveaux, je dirais. On va commencer par celui qui n'a aucun contrôle, c'est la vaccination. Ils se préparent, ils sont prêts, je pense. On prépare le palais des congrès à vacciner des milliers de personnes par jour, mais on n'a pas les doses. Et c'est hors du contrôle du gouvernement du Québec. Ils peuvent faire des pressions tant qu'ils veulent au fédéral, mais c'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler.
Et ça, c'est pathétique, hein, Benoît Mas. Là, je pense. Hier, on voyait des photos là, du palais des congrès vide. Ouais, les tables de vaccination sont là. Ils disent qu'il y a à peu près une quinzaine de vaccinateurs, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui peuvent faire 10 personnes à l'heure. Donc, ça en fait du monde qui peuvent être vaccinés par jour, sauf qu'il n'y a pas de vaccin.
Oui, effectivement. Et vous voyez, si on était dans la situation du Royaume-Uni, où on a presque 15% de la population vaccinée, mais ça, si on avait la même situation ici, là, on aurait presque tous les 70 ans et plus de vaccinés. Et les 80, et les RPA, et les règles de la santé, et il y aurait beaucoup moins de pression. Mais on est à peine à 2%. On n'a même pas commencé à vacciner ou très peu les RPA. On n'est pas sûr des doses qu'on va avoir en février. Alors, c'est sûr que, comme je dis, le gouverneur du Québec veut bien vacciner, mais il n'a pas les doses. Alors,
mais là, si c'est le fédéral, M. Mann, je pense qu'il faut pointer du doigt. Est-ce qu'on n'a pas été naïf à Ottawa de penser qu'on allait recevoir gentiment des doses d'une compagnie privée qui n'allait pas offrir son vaccin aux plus offrants?
Je pense que on pense, faut dire qu'au début, c'est facile de dire on aurait dû investir et construire des usines de Pfizer. Mais au début, il faut dire qu'on savait pas lesquels vaccins allaient fonctionner. Alors, c'est sûr que dire on va investir 1 ou 2 milliards pour chacune des usines de chacune des compagnies, peut-être qu'on se disait on va attendre un peu, voir qui va sortir gagnant, qui va sortir avec des vaccins. Et là, à la grande surprise, en fait, beaucoup de compagnies sortent avec des vaccins efficaces. Alors, c'est sûr que là, mais aux dernières nouvelles, je pense que l'Union européenne entend respecter les ententes avec le Canada, mais quand même, ça n'empêche pas que si Pfizer, Moderna ont des retards dans leur production, que nous, on a très, très peu de personnes de vaccinées au Québec.
Vous dites, Benoît Mas, il aurait fallu vraiment, avant de déconfiner comme on le fait, attendre que la vaccination reparte, c'est un peu ça?
Ben en fait pas oui mais c'est ça pourrait prendre un autre 8 semaines avant ou même jusqu'à la fin avril avant qu'on puisse vraiment vacciner tous les RPA, tous les 80 ans et plus. Alors on peut pas rester confiné comme ça. Déjà on voit là les effets collatéraux du confinement sont non seulement au niveau économique, mais comme vous l'avez dit sur la santé mentale et à un moment donné on sait qu'on va s'essouffler. En plus les Québécois sont capables de lire des chiffres comme nous là. Ils voient que ça descend puis à un moment donné quand on va être rendu à 300 ou 400 cas par jour avec un délestage qui va avoir diminué de beaucoup puis des hospitalisations qui ont diminué, on va tout simplement commencer à dire bon ben on va se permettre des permissions. On va déroger, on va se dire écoute, ça va bien, puis moi j'en peux plus.
Mais voilà. Oui, effectivement, ça c'est une crainte. On va y revenir, Benoît Mas. Il y a Alain qui nous appelle. Bonjour.
Oui, bonjour. Je vous félicite pour votre émission, vous et toute votre poste de radio. Là, c'est toujours le fun de vous écouter.
Merci, Alain.
Ce qu'on entend des fois, là, comme tantôt, là, la personne qui disait, il était centré sur lui-même, là, on voyait que moi, j'ai rien, l'autre, ça va bien.
Dans l'émission puis, de Paul, oui, oui.
Oui, la semaine passée, vous aviez quelqu'un à votre émission là, qui a appelé, à lui, il travaillait en Bourg-Fitané, puis ben là, en fin de semaine, on va aller dans le bois en 4 roues avec ma copine, on va aller, il est chanceux, il sait-tu qu'il est chanceux, c'est ça qu'on ne sait pas au Québec, comment est-ce qu'on est quand même bien positionné. Puis que je voudrais pas être à la place de ceux qui gèrent cette pandémie-là. Puis qu'est-ce qu'on entend qui va donner avec les pharmacognatiques? On va vivre des choses comme ça. Moi, ce côté-là, ça me décourage un peu de voir que des gens, tant que les gens vont être centrés, j'ai peur un peu. Moi, j'aurais aimé que ça continue parce que je trouvais que ça allait bien. Puis nos hôpitaux, ben, sont sur le bord, on était sur le bord d'éclater vraiment.
Oui, tout à fait. Merci, Alain. Merci pour cette réflexion. Chantal, bonjour. Votre opinion par rapport à ce qui a été annoncé hier?
Ben, en fait, je suis un peu pour et contre. Je vous explique. Je suis pour que les régions où est-ce qu'il y a peu de cas aient du lousse et soient confinées. Bien entendu, ils en ont besoin. On en a besoin partout. Moi, je suis quand même dans la région de Montréal. Et puis, par contre, là où est-ce que je suis contre, c'est qu'on vient de resserrer la vis pour les voyageurs dans les aéroports et tout ça. Et là, on rouvre les magasins. La semaine de relâche s'en vient dans 2 semaines. C'est les restaurateurs qui vont devoir jouer à la police dans les régions parce qu'il n'y aura pas de barrage, comme on a bien compris. Donc, c'est un peu, je trouve que on refaire la vis d'un côté pour les voyageurs, on était soulagés de ça parce que la semaine de relâche s'en vient. Et de l'autre côté, ben, on défère trop vite avant la semaine de relâche pour nos magasins. Et en plus, moi, je suis factrice, là. Je suis pour que les magasins rouvrent parce que je suis beaucoup plus dans le jus quand les magasins sont fermés. Mais, je trouve que c'est trop tôt. Durant la semaine de relâche, tout le monde va se garrocher dans les magasins, va essayer d'aller manger dans les restaurants, dans les autres zones, va essayer de trouver la petite faille où est-ce qu'ils peuvent aller déjouer la règle. Je crois qu'on aurait dû, je comprends la santé mentale, la mienne ne va pas se faire bien non plus, mais je crois qu'on aurait dû attendre 2 semaines de plus et attendre que la semaine de relâche passe. Ne pas l'enlever, parce que les enfants en ont besoin, mais on aurait dû attendre 2 semaines de plus.
Merci beaucoup, Chantal. On va aller à la pause là-dessus. Beaucoup d'auditeurs veulent intervenir, donc on va vous donner la parole. 514-790-9850. De l'extérieur, un peu partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Vous pouvez m'écrire à isabelle@985fm.ca. Allez sur mon Facebook également. Je lis vos messages Messenger. Une chose est sûre, c'est que ça change certaines choses. Ça change une perception. On reviendra là-dessus avec notre invité Benoît Masse aussi. La perception, c'est peut-être là le risque, c'est qu'il y en a qui comprennent que là, on vient d'ouvrir les vannes, puis qu'on peut faire ce qu'on veut, puis qu'on peut se booker du restaurant de Montréal. Tu peux peut-être aller manger quelque part en région. Non, ça, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais ça, c'est pas possible. Et même si c'était peut-être pas une bonne idée de dire qu'il n'y avait pas de barrage, il faut que dans notre tête, il y a une espèce de barrage psychologique qui nous empêche d'aller hors de notre zone, puis qu'on se restreigne un peu quand même. Il y a ça qu'il va falloir qu'on garde en tête. Benoît Masse pourra continuer d'ailleurs pour nous convaincre de le faire avec d'autres arguments. On va entre autres parler de toutes les incertitudes qui entourent les fameux variants. À tout de suite tout le monde. On a Véronique qui est avec nous. Comment vous réagissez, Véronique, par rapport au petit déconfinement graduel de François Legault?
Oui, bien moi, je suis pas super en accord le fait d'ouvrir les centres d'achat et tout ça dans la zone rouge. J'aurais fait le contraire. Moi, j'aurais préféré ouvrir les restaurants. Je trouve que dans les centres d'achat, il y a trop de rassemblements. Puis les gens, ils font pas attention. Puis là, ils disaient qu'ils allaient mettre de la sécurité, plus de ci, plus de ça. Mais je pense pas que ça va fonctionner. J'aurais préféré les restaurants. Je trouve qu'il y avait plus de sécurité dans les restaurants puis les cinémas puis tout ça. Moi, j'aurais fait le contraire.
Merci beaucoup, Véronique. Puis ça a de l'allure ce que Véronique nous dit. Benoît Masse, est-ce que vous avez la même inquiétude par rapport aux centres commerciaux, même avec des mesures de surveillance pour éviter qu'il y ait des attroupements, là, en particulier dans les aires communes? On sait que c'est quand même assez difficile. On a vu plusieurs endroits là, où bon, la surveillance et surtout les gardes de sécurité n'étaient pas forcément là tout le temps pour éviter que les gens se réunissent. Quelle est votre impression de tout ça?
Oui, je pense que ce que j'avais mentionné cet automne aussi, c'est qu'il faudrait permettre des activités, mais très bien encadrées. C'est sûr que lorsqu'on parle de gérer le trafic dans un centre commercial, là, ça peut être très, très difficile d'encadrer qui entre, qui va où, si tu fais juste passer ou si tu fais juste flâner. C'est sûr que dans un restaurant, par exemple, on peut limiter le nombre de clients par mètre carré, par exemple. On peut... les gens sont assis, ils circulent beaucoup moins. C'est plus facile de faire aussi des inspections très, très, très courtes. Alors, c'est sûr que si on ouvre certains commerces, certains secteurs, À mon avis, il faudrait que ça soit très, très bien encadré pour qu'on puisse gérer et minimiser les attroupements, là, par exemple, dans les centres commerciaux qu'on a vus durant le temps des fêtes.
Mais est-ce que l'expérience nous a pas démontré que l'encadrement était à géométrie variable parfois?
Ouais, mais je pense qu'on pourrait ajouter une tolérance zéro, c'est-à-dire que si jamais on trouve par exemple un restaurant qui respecte pas les règles, on le ferme pour 2, 3, 4 semaines. Je dis bien fermer, pas tous les restaurants, parce que là, on veut pas pénaliser tout le monde juste parce qu'il y en a un qui déroge, clairement indiqué qu'il va avoir une tolérance zéro, c'est-à-dire on ouvre, mais la minute qu'on s'aperçoit qu'il y a un débordement dans votre restaurant,
Mais vous, êtes-vous en train de dire, Benoît Hamas, tant qu'à avoir ouvert les centres d'achat, aussi bien rouvrir les restaurants aussi?
Ben, je ne sais pas c'est quoi la préférence des Québécois. Si on a le choix entre les deux, est-ce qu'on préfère aller au restaurant dans notre bulle familiale avec nos proches ou on veut vraiment avoir le loisir d'aller dans un centre commercial? Dans un centre commercial, je vous dois dire, moi, personnellement, je vous dirais que j'aime mieux aller dans un restaurant, là, flâner dans un centre commercial.
Exact.
C'est pas ma grande activité, là, mais j'y vais parce que je suis obligé et j'ai besoin de choses. Là, donc, c'est une question de préférence, mais je pense que les restaurants, par contre, c'est un commerce que ça fait longtemps que c'est fermé à Montréal. Et c'est vrai qu'ils ont livraison, mais il y en a qui seraient prêts à ouvrir, même si on se dit qu'ils vont ouvrir quelques tables seulement.
Ah oui, c'est sûr.
Avec des restrictions, mais il y a une partie de la population qui a besoin de restaurants. C'est pas pour rien qu'il y en a qui se tapent des 100 km aller-retour pour aller manger.
Puis c'est ça. Êtes-vous inquiet de ça? Parce que je parlais de l'espèce de... Le gouvernement a dit qu'il n'y aura pas de barrage sur les routes pour empêcher les gens d'aller de la zone rouge à la zone orange. Je disais aux gens, il va falloir s'en mettre un barrage dans notre tête, un barrage psychologique, parce que on veut pas que les gens commencent à se promener d'une région à l'autre, comme on l'a déjà vécu. Je veux dire, on veut pas, c'était le jour de la marmotte hier, mais on voudrait pas que ça le soit au cours des prochains jours.
Ben écoutez, je veux dire, les restaurants peuvent aider à filtrer leurs clients, si on veut. Là. Peuvent nous dire, oubliez pas, quand vous allez venir, là, vous devez nous montrer votre permis de conduire avec votre adresse. Là.
Ouais. Et puis, y a des mais c'est donc les restaurateurs qui vont avoir l'odieux de jouer à la police. Hein?
Oui, mais d'un autre côté aussi, ils savent très bien que s'il y a des débordements, c'est ils vont se faire fermer. Je pense qu'ils ont avantage à dire, oubliez pas, ici, on a une politique de servir...
Les gens de la région.
Les gens du coin. Ouais. Puis, tu le dis à la réservation, c'est clair. Puis, on va vérifier. Puis, si vous ne l'êtes pas, on ne vous servira pas.
On a Michael qui est avec nous. Bonjour, Michael.
Salut, Isabelle, ça va bien?
Oui, ça va bien, on vous écoute.
Enfin, dans le fond, j'appelle pour quelques petits trucs. Les déconfinements, comme que je vois dans le fond, qu'ils ont ouvert les centres d'achat, les coiffeurs, etc., etc. Moi, je trouve que c'est un peu trop tôt. Tant qu'à être, ça fait un petit bout qu'on vit là-dedans. Pourquoi pas aller peut-être jusqu'à la fin du mois, jusqu'à début du mois prochain. Je trouve que c'est un peu trop vite. Qu'est-ce qui me concerne aussi, c'est que ça fait deux fois que j'entends M. Legault parler, mais je l'entends jamais parler des gyms. Je l'entends jamais parler des gyms que le monde a besoin. Ils disent, les places de ski sont ouvertes, vous pouvez aller prendre une marche, mais ils oublient le monde qui doit s'entraîner, qui peuvent pas nécessairement peut-être aller prendre des marches dehors, qu'ils aiment le tapis roulant, qu'ils aiment lever du poids.
Mais hier, là, justement là-dessus, Michael, c'est sûr que pour la zone rouge qui est Montréal ou toute autre zone rouge, les salles d'entraînement, les gyms, c'est non. C'est-à-dire que, oubliez ça, là, c'est encore fermé. En zone orange, c'est oui à l'entraînement individuel seulement. Là. Les activités de groupe là, sont encore interdites. Donc, on a même en zone orange, là, c'est pas l'ouverture des gyms complètement. Il y a des limites. Donc, vous voyez que probablement que les gyms, comme les bars, moi, de ce que je comprends des réticences de la santé publique, c'est que probablement qu'ils vont être les derniers à ouvrir.
Ils vont être les derniers, mais c'est pas juste parce que il y a eu aucun cas dans aucun gym. C'est ça qui fait mal. Puis tu sais, les coiffeurs sont ouverts. Ouais. Moi, je vais aller chez le coiffeur pour faire ma barbe là. J'ai pas mon masque pendant un bon 5-10 minutes. Puis le coiffeur est à peut-être 30 cm de ma face. Fait qu'elle est où la logique là-dedans? Ouais. C'est ça qui fait un peu mal. Le monde, ils doivent bouger. C'est comme que j'ai entendu parler une femme où vous avez dit tantôt qu'il y avait du monde qui n'ont pas de problème de santé mentale. Uh-huh. C'est ça. Puis, tu sais, moi non plus, j'en ai pas. Mais là, tu sais, quand quand je repense à ça, ça me fait tellement mal que, ça vient jouer sur ma mentale, je veux pas.
Merci, Michael. Merci. Merci bien. Jocelyne, bonjour.
Bonjour, madame, ça va bien?
Oui, on vous écoute, Jocelyne.
Ouais. Bon, moi, je suis contre les centres d'achat, là. Peut-être les pignons sur rue, ça serait correct.
Oui.
Mais
pas de flanage. Pas de flanage au centre commercial.
Non, parce qu'avec les enfants, là, non. Uh-huh. Et puis, les restaurants, s'il vous plaît, ouvrez-les. C'est pas là qu'il y a de la contamination. Il n'y en a pas, là. Ils sont fatigants. Ils ont. Ils ont mis des règles, ça a coûté des fortunes. Et puis là, on peut pas y aller. Je parle pas de bar, là. Les bars, oubliez ça. Mais les restaurants, là, pour les personnes âgées surtout, tu sais, une fois par semaine, c'est une fois de sortir.
Oui, mais pour bien des gens. Là. Merci. Merci, Jocelyne. Nathalie, rapidement, votre opinion là-dessus. Visiblement, entre les centres d'achat et le restaurant, c'est mon invité Benoît Masse qui disait si on nous donnait le choix, lequel vous prendriez, vous auriez-vous gardé, qu'est-ce que vous auriez gardé?
Non, mais définitivement un restaurant, parce que là, tout le monde va se lancer. Les achats de Noël, les retours, puis tout ça, là, ça n'a pas été permis jusqu'à maintenant. Ça va être la cohue. La semaine de relâche s'en vient. Puis moi, Isabelle, je veux juste te dire vite, là, ma confiance depuis le début est en tout notre gouvernement, notre santé publique. Je pense qu'il faut leur faire confiance. C'est eux les experts. Mais si jamais ça dérape là, à cause de cette décision-là, là, ma confiance va être ébranlée en la sécurité.
Je comprends. Merci beaucoup, Nathalie. Benoît Masse, bon, vous voyez, là, votre question était très bonne, Benoît. si on vous avait à choisir un centre d'achat ou resto, j'ai l'impression que les gens diraient beaucoup les restaurants. Là. Il y a eu comme un mouvement de solidarité aussi, on comprend. Vous, votre inquiétude aussi, je voulais qu'on parle de ça avant de vous laisser aller, Benoît Masse. Vous dites, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ces fameux variants dont on ne sait pas énormément de choses, mais quand même, on sait qu'ils seraient plus rapidement contagieux. Bref, vous dites, c'est pas mal ça qui est le plus inquiétant, hein?
Oui, alors ça, c'est la grande incertitude. C'est pour ça que je pense que le gouvernement va garder un œil sur la minute qu'on va avoir une reprise. Et s'il faut que ça soit avec un ou des variants, on peut s'attendre à une fermeture assez sévère et assez rapide. Alors, tu sais, là où les variants, là, on en a découvert 150 à peu près au Canada. La semaine passée, on en a découvert 4 au Québec. Et là, on est rendu à 8.
Des cas, là, des gens infectés par cette nouvelle version donc de la COVID-19.
Ouais. Ouais. Et ça serait vraiment excessivement dangereux de croire que le Québec va y échapper. L'anecdote que je dis souvent, c'est comme lorsqu'on trouve une carpe asiatique dans un lac, là, c'est pas parce qu'il y en a juste une. Il y en a pas mal plus. Alors, mais là, on ne sait pas. Là, c'est vrai, ça pourrait, si on réduit la transmission communautaire, là, ce qu'on est en train de faire, ça donne moins de chances aux variants de se développer, d'infecter. Mais c'est un danger. C'est très, très difficile à prévoir ce qui va arriver dans les 4 prochaines semaines. Là. Et n'oubliez pas, là, regardez où on était le 1er décembre, puis regardez où on a fini. Ça change énormément en 4 semaines. Regardez où on était le 1er septembre, puis regardez où on a fini le 1er octobre. Ça change énormément rapidement.
Mais quand vous dites, quand vous présentez ça comme ça, c'est pas encourageant, là, Benoît Masse.
Non, je fais juste dire que le variant pourrait venir vraiment compliquer. On le sait, les pays.
Mais on parle d'une troisième vague potentielle due au variant, justement.
Oui, et c'est une course. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment ralentir l'introduction des variants au Québec pour permettre encore là à la campagne de vaccination de nous donner des bénéfices, d'aller protéger nos personnes à risque. Et là, on voit qu'on a des retards. Alors, on aimerait bien gagner cette course-là, dire on a réussi à vacciner 10 ou 15 % et le 10 et 15 % vous allez me dire, c'est pas beaucoup pour le Québec, mais si c'est les personnes à risque les personnes de 65 ans et plus, c'est énorme.
Oui, tout à fait.
Et bon, le variant après ça, ça va lui donner moins de chances. Oui, peut-être qu'il va se propager, mais il va avoir moins de conséquences parce qu'il va infecter des gens qui sont moins à risque de cas graves, d'hospitalisation et même de décès. Alors, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire on donne une certaine opportunité aux Québécois de se de décompresser, mais pas trop. On veut ralentir le variant, on veut se donner une chance avec la vaccination. Le Québec n'a pas de contrôle, comme on disait tout à l'heure, n'a pas de contrôle sur les doses. Donc, on doit attendre. Et là, c'est en attendant, on espère ne pas avoir trop déconfiné pour avoir donné une chance au variant de créer cette troisième ou même de repartir la deuxième vague qu'on a à peine contrôlée présentement.
Mm-hmm. Et là, on revient à ce que vous disiez par rapport au vaccin. Puis ce matin, on apprenait que la deuxième dose de Pfizer, là, elle ne doit pas être reportée ad vitam aeternam. Là. À un moment donné, il va falloir la donner aux gens. Mais si on ne l'a pas, on ne pourra pas leur donner. Donc là, est-ce que ça voudrait dire que la première dose aurait servi à rien?
Oui, on peut. Ben, je dirais, n'oubliez pas, quand on a commencé la vaccination, on avait 3000 cas par jour. Je pense que c'était important de protéger le maximum de personnes le plus rapidement possible. N'oubliez pas, là, on a d'autres vaccins qui s'en viennent, là, Johnson & Johnson, qui est un vaccin à une dose, AstraZeneca, qu'on va avoir une décision de Santé Canada probablement dans les prochains jours. Il y a Novavax. Donc, c'est certain que en termes. Bon, c'est sûr que là, on n'a pas de dose, mais on pourrait soudainement en avoir beaucoup plus qu'on pensait en avoir, mais qu'ils arrivent en mars, en avril, parce qu'il y a plusieurs. Même là, on parle que le vaccin russe est potentiellement bon aussi. Il a été du moins validé par des scientifiques. Donc, on a des ententes avec les Russes, là, mais du moins, on a des ententes avec Novavax, Johnson & Johnson, AstraZeneca et évidemment Pfizer et Moderna. Alors, ça fait quand même 5 vaccins. Et là, présentement, le plan de vaccination du Québec inclut juste les Pfizer et Moderna, ceux qui sont approuvés au Canada. Mais comme je vous dis, les bons résultats qu'on a vus avec les 3 autres, on a des ententes, le Canada.
Et ça pourrait être enclenché, ces processus, assez vite. Là, à partir de, on l'a vu, d'ailleurs, dans le cas de Pfizer et Moderna. Ça n'a pas été long. Ce qui a été très surprenant, d'ailleurs, parce qu'on dit, mon Dieu, pour une fois, c'est donc bien rapide d'approuver un médicament. Mais là, dans ce cas-ci, on comprend l'urgence. Donc, c'est sûr que ça pourrait vite débouler en même temps. Ben, merci beaucoup, Benoît Masse. On aura l'occasion de se reparler. Toujours intéressant. Benoît Masse est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On s'arrête ici. Très courte pause. Au retour, on va parler à 2 médecins. Je voulais quand même que... on va réécouter, d'ailleurs, la conclusion de la conférence de presse de François Legault tout de suite après. Où il nous dit vraiment, là, vous allez voir, c'est intéressant de le réentendre comme ça au lendemain de cette annonce. Puis on va aller et à Québec et à Montréal parler à 2 médecins là, qui ont les 2 mains dans les zones COVID pour nous. Ils vont nous dire comment ils voient ça, et bien sûr, vos commentaires.
La bataille n'est pas finie. On s'en va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire, entre autres pour venir aider nos infirmières puis nos soignants. Ça fait 11 mois qu'ils sont au front. Il y a encore du délestage, puis une fois qu'il n'y aura plus de délestage, il va y avoir énormément de rattrapage à faire dans les chirurgies. Donc, ça va être encore des mois très difficiles pour le personnel soignant. Donc, pensons à eux autres, puis essayons d'éviter autant que possible d'attraper la COVID, de se ramasser à l'hôpital, puis de prendre un lit qui pourrait être utilisé pour une chirurgie. Donc, je compte sur vous.
Je trouvais que c'était important qu'on réentende ensemble la conclusion de la conférence de presse d'hier. Je trouve ce que vient de dire notre premier ministre, ça conclut bien son plan de déconfinement, de petit déconfinement, parce que ça nous rappelle l'importance d'éviter de l'attraper, la COVID, pour éviter de se ramasser là où mes 2 prochains invités sont obligés de faire des pieds et des mains. Docteur Mathieu Simon est pneumologue, il est chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour, Docteur Simon.
Bonjour, Mme Maréchal.
Docteur François Marquis, chef des services aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, Docteur Marquis.
Bonjour, bonjour.
Alors, tous les deux, vous avez les 2 mains dedans. Est-ce que vous êtes d'accord, Docteur Simon, puis Docteur Marquis ensuite, à ce qui a été annoncé? Parce que là, François Legault nous le dit, il faut aider les soignants, il faut aider les infirmières, les médecins comme vous deux. Faudrait éviter que les Québécois l'attrapent, la COVID, pour aller se retrouver dans vos mains, justement. Même si ça se rend de bonne main, on ne veut pas y aller. Hein? Docteur Simon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été annoncé?
Bon, tout à fait. Je pense qu'il faut voir ça comme une expérience sociale. C'est-à-dire qu'on déconfine dans les régions qui ont le plus bas taux de positivité présentement. Et si ça se passe bien, ben on pourra tirer des leçons et permettre à des régions où la COVID a frappé plus fort Montréal, sa périphérie, Québec, la Montérégie, de procéder par le même processus. On connaît maintenant la recette, on sait comment se distancer de façon efficace avec le couvre-feu et les autres mesures. Alors oui, il faut relâcher à un moment donné. Puis j'aimerais, Madame Maréchal, juste dire, puis je suis sûr que le docteur Marquis est d'accord avec moi, c'est gentil au premier ministre de dire qu'il veut aider les soignants, mais en fait, ce qu'on veut aider, c'est tout le monde, parce que les soignants, ils vont travailler aussi fort qu'il y ait ou non du COVID. Ils vont juste travailler à d'autres maladies qui sont tout aussi désastreuses, le cancer du sein, le cancer du poumon, les maladies cardiaques, la traumatologie. Puis donc, on veut pas prendre de répit, là. On veut pas s'en aller dans le sud pendant la semaine de relâche. On veut juste être capable d'aider les autres clientèles qui ont été un peu négligées à cause du COVID, malheureusement.
Oui, effectivement. Docteur François Marquis, là-dessus. Donc, on fait le test, François, c'est ça? On fait un test, oui. Puis on voit si ça marche.
Bien, le déconfinement, on l'a souvent dit, hein, c'est beaucoup plus délicat que le confinement. Ça demande de la souplesse, ça demande de l'intelligence. Je pense qu'effectivement, c'est une belle façon de faire. On ne faut pas oublier qu'on s'approche de la semaine de relâche. On sait que la dernière semaine de relâche, on l'a mangé en pleine face. Donc, je pense que c'est important d'y aller prudemment, de démontrer effectivement une volonté de déconfiner, parce que je pense qu'effectivement, on est rendu là, mais de le faire avec intelligence. Et je pense que le message, c'est de dire, plus vite on revient à une vie normale, plus vite on commence à rattraper le retard dans le système de santé, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Je trouvais que quand même, bon, il y a eu qu'une seule journée, puis on va voir aujourd'hui, là, peut-être que les chiffres vont être différents aujourd'hui, puis vont nous confirmer qu'on est capable d'être plus qu'une seule journée en bas de la barre psychologique des 1000 cas, 1000 nouvelles infections par jour. Mais il y a eu qu'une seule journée là où on était en bas de 1000. Fait que, à moins que le gouvernement ait des chiffres qu'on n'ait pas, vous, ça ressemble à quoi dans vos unités de soins intensifs? Est-ce qu'effectivement, il y a un vrai soulagement aussi du côté de votre département, docteur Mathieu Simon?
Écoutez, dans la région de Québec, puis dans le Québec en général, il y a en 10 jours, il y a 60 lits de soins intensifs qui étaient affectés à du COVID, qui ont été libérés pour prendre soin de d'autres maladies, parce que l'incidence du COVID a diminué, les patients ont guéri, sont retournés à la maison sur les étages. Donc, c'est une excellente nouvelle, mais ça demeure effectivement précaire. On est à un variant près, on est à une indiscipline près de retourner en arrière. Puis, c'est ce que la population doit comprendre. Puis, je pense qu'on devrait remplacer le mot confinement par discipline. C'est-à-dire que au lieu de se faire imposer des règles très, très précises, puis policières pratiquement, on devrait tous tirer des enseignements de la première, puis maintenant de la deuxième vague qui s'achève pour se dire, ben écoute, je vais me discipliner moi-même pour justement éviter de retourner en confinement parce qu'on n'aura pas été assez attentif à l'autre.
Oui, justement, François, il y a beaucoup de gens qui disent ce matin, comment ça fait qu'il n'y a pas de barrage? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont partir de la zone rouge puis aller en zone orange pour aller au restaurant. T'sais, il y a le 14 février qui s'en vient. Ça se peut qu'il y ait des couples qui décident d'aller se faire un dîner en amoureux dans un restaurant en zone orange. Ça a l'air qu'il y a déjà un mouvement pour des locations de chalets dans les 6 zones. Ben, peut-être pas dans le nord du Québec, là, mais encore là. Mais il faudrait être très motivé. Mais il y en a des motivés, me dire, ami. Là. Alors, est-ce qu'on va pas se retrouver encore à gérer du monde pas gérable, tu sais?
Bon, je pense qu'il y a deux aspects là-dessus. La première, c'est que le gouvernement aussi a fait son expérience et je pense, entre autres, pour les restaurants, ils ont privé des mesures excessivement sévères pour des restaurants qui accueilleraient des gens de l'extérieur. En tout cas, c'est ce que mes petites antennes semblent indiquer. C'est que je pense qu'ils ont travaillé là-dessus fort. Les centres d'achat, j'imagine qu'ils vont faire un effort aussi. J'avoue que les locations de gré à gré d'un chalet, c'est plus problématique, mais je pense que c'est là l'expérience sociale. C'est de dire, si on ouvre un petit peu puis qu'on voit que massivement, il y a une proportion démesurée de déraisonnables, là, ça nous annonce qu'on manque de cette discipline-là collective qu'on a de besoin. Et là, on va étirer beaucoup plus le déconfinement. Si les gens démontrent cette discipline personnelle-là et montrent qu'ils sont prêts à aller de l'avant, je pense que ça va annoncer essentiellement un déconfinement plus hâtif pour les autres régions en disant « OK, les gens ont compris ». Ça reste un équilibre précaire et le vrai contrat social, là, il est maintenant. C'est le déconfinement qui est difficile. C'est là qu'on va voir comment, et d'après moi, le comportement des gens dans les régions en ouverture va essentiellement décider du déconfinement des gens présentement dans les zones plus chaudes.
Mm-hmm. Là, il y a toujours... c'est pas possible de visiter ses proches là, dans les hôpitaux. Il y a quand même beaucoup de gens là, qui continuent de dire, ben moi, ça changera pas grand-chose. Des gens m'écrivent et me disent, moi, ça changera pas grand-chose. Je pourrais pas plus voir mes proches. Ça m'aide pas, là. Docteur Simon?
C'est une étape.
Oui, docteur Simon là-dessus, puis docteur Marquis.
Ben, vous voyez, moi, je préfère beaucoup que les gens voient leurs proches un peu plus tard qu'ils les voient plus tôt au salon funéraire. C'est une équation facile, hein. C'est une maladie qui est transmissible par des contacts de proche à proche. Quand vous allez voir quelqu'un, peut-être que vous aidez votre santé mentale, mais vous risquez la santé physique de quelqu'un d'autre. Puis, pour avoir une santé mentale, il faut avoir une santé physique. Alors, il y a un équilibre à tenir entre ces deux santés-là, qui sont complémentaires. Mais la santé physique assure la base de la santé mentale et non pas l'inverse.
Ouais. François?
Ben, je pense que c'est tout à fait vrai. On a déjà fait beaucoup de mois d'efforts collectifs. Ça serait plate à la dernière minute de laisser ça tomber et de rendre un peu vaines toutes les choses qui ont été faites avant. C'est un petit effort. Il y a quand même des accommodements qui sont faits dans les cas terribles, là, dans les fins de vie, les choses comme ça. Il y a des trucs en virtuel qu'on organise. C'est pas parfait, on le sait, mais ça démontre une volonté de vouloir bien faire les choses. Et le plus tôt les gens se déconfinent intelligemment, le plus tôt on va revenir à la normalité. Mais même quand on va commencer à réouvrir pour dire quelque chose dans la grande région de Montréal, il faut comprendre que du jour au lendemain, ça ne sera pas « OK, venez-vous-en dans les hôpitaux, là. » Ça va être une personne, ça va être limité à une personne par semaine. C'est juste qu'on va probablement passer qu'au lieu que ça soit juste un proche aidant désigné, on va ouvrir un peu plus. Mais si les gens pensent que dans 3 semaines, on va recirculer dans les hôpitaux comme on recirculait il y a 1 an, ça n'arrivera pas, là.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est incroyable. Je reçois beaucoup de commentaires. Beaucoup de gens réagissent aux locations de chalets. Beaucoup de gens réagissent aux restos aussi. Des gens me disent, c'est simple, pourtant, les restos, on aurait dû tous les rouvrir. Là, ça a l'air que c'est... J'ai l'impression là, que c'est une opinion généralisée, là, que les gens se disent, pourquoi tant qu'à rouvrir les restaurants en zone orange, pourquoi on ne l'a pas fait à la grandeur du Québec, étant donné que M. Legault a dit, avec une preuve de résidence, ça aurait été facile de voir, bon, tu vas au resto de ton quartier, mettons, mais pas ailleurs. Puis donc, on limite les déplacements, puisque ça reste ça quand même, hein, l'idée. Limiter vos déplacements pour limiter la contagion. On revient tout de suite avec nos invités et vos commentaires au 514-790-9850 1-866-790-9850. On a une auditrice, Marie-André, qui a une question sur le fameux délestage. Bonjour, Marie-André.
Oui, bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Moi, je suis bien satisfaite des mesures, malgré que moi, je suis en Mauricie, dans le fond du bois, puis on aurait aimé que les restaurants ouvrent, mais je comprends. Voici ma question. Mm-hmm. On a l'hôpital Montréal, Québec, Trois-Rivières, qui sont des grands hôpitaux, puis qui subissent des délestages, mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que quand quelqu'un ici a un problème cardiaque, un problème, se coupe un doigt, ils s'en vont tous à Montréal. Alors, les gens qui sont dans les hôpitaux de Montréal ou de Québec, là, c'est pas tout des Montréalais. Ils couvrent l'ensemble du Québec pour le cancer, pour, en tout cas, on n'aimera pas toutes les maladies. Alors, c'est important de préciser qu'on a de très, très bons hôpitaux, mais ces hôpitaux-là s'occupent de tout le monde, s'occupent de tous les Québécois.
Oui, c'est un fait, c'est sûr. Que, ouais. Peut-être, votre question est donc...
Oui, ma question c'est, est-ce que quand on parle de délestage, est-ce qu'on parle de région ou est-ce qu'on parle d'hôpitaux qui desservent majoritairement tous les Québécois ou des régions précises?
Docteur Simon, là-dessus peut-être, comme pneumologue, chef des soins intensifs, je le rappelle, à l'Institut universitaire et de cardiologie de pneumologie du Québec, à Québec.
C'est une superbe question, puis tant le docteur Marquis et moi qui travaillons dans des hôpitaux tertiaires, on dessert l'ensemble du Québec, et il est important de voir que les lits du Québec appartiennent à tous les Québécois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que parce que vous êtes en Gaspésie, vous ayez un moins bon service médical que parce que vous habitez sur la rue Sainte-Catherine. Et effectivement, le COVID nous a posé un certain souci parce que les régions plus périphériques, qu'on est en train de déconfiner, ont moins de ressources hospitalières numériquement, puis qualitativement, ils n'ont pas accès manifestement à tous les services que nous avons. Et une des choses qui pourrait nous inquiéter dans ce délestage asymétrique, c'est que si l'expérience se conclut mal et que la Gaspésie s'enflamme de COVID, mm-hmm. bien, c'est sûr qu'ils vont venir gréver la lourdeur des cas à Québec et à Montréal et nous empêcher de traiter d'autres patients qui ont besoin de soins tertiaires mais qui ne sont pas du COVID. Alors, c'est pour ça que ça va être très important que tout le monde comprenne cette discipline dont mon collègue Marquis parlait tantôt. Mm. Il faut qu'on fasse attention à soi-même, mais on fait attention à soi-même et pour les autres. Tu sais, ouais. quand tu décides d'arrêter de fumer, il y avait une annonce sur l'arrêt du tabac, c'est très, très important d'arrêter de fumer, mais tu le fais essentiellement pour toi. Faire attention au COVID, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour tous les autres qui peuvent attraper le COVID par ton imprudence ou qui peuvent ne pas avoir de soins adéquats pour une autre maladie, cancer du sein, cancer du poumon, maladie cardiaque et autres, parce que tu as commis une imprudence.
Ouais, tout à fait.
C'est extrêmement important la question qui est posée ici.
Ouais. Puis François, Dr Marquis, il y a aussi ce qu'on contrôle, puis là, le Dr Simon vient de nous le dire, là, s'il nous fait face à notre responsabilité. En même temps, il y a tout ce qu'on contrôle pas. Puis tout à l'heure, je parlais avec Benoît Mas, qui est de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui parlait de son inquiétude par rapport aux variants. Lui, personnellement, il dit, bon, il y a déjà 70 pays au moins qui ont des problèmes avec les variantes des variants. Pour lui, c'est sûr qu'on aurait peut-être dû restreindre l'activité un peu, même s'il comprend l'air qu'on donne aux Québécois. Il aurait aimé ça peut-être avoir une couple de semaines de plus. Puis là, on vient d'apprendre aussi que le fait de retarder la deuxième dose, ça peut peut-être entraîner le développement de ces fameux variants. Ça, on contrôle rien là-dedans, là.
Bon, en fait, il y a des choses qu'on contrôle, en fait, sur les variants. C'est qu'on sait que plus il y a de gens malades en même temps, plus on a de chances que des variants émergent spontanément. C'est une question statistique. Donc, en contrôlant les éclosions, en s'assurant collectivement qu'on fait notre part, mais en fait, on a un impact à diminuer le nombre de variants. Cela dit, les variants, il va toujours y en avoir. C'est dans la nature des virus que de faire ça. Mm-hmm. On peut juste diminuer ce risque-là. Même le risque des variants, si on est intelligent puis qu'on est discipliné, on diminue collectivement ce risque-là. Maintenant, il faut faire attention. La résistance, l'émergence des variants et la résistance bactérienne aux antibiotiques, quand on ne donne pas toutes les doses, c'est deux planètes complètement séparées. Mmh. Fait que quand on dit, si vous prenez pas toutes vos antibiotiques, vous allez créer des bactéries multirésistantes, c'est vrai, c'est un mécanisme qui est complètement différent de l'émergence des variants. Et là, pour l'instant, là, l'histoire de dire que parce qu'on n'a pas nos deux doses nez à nez ou de la bonne façon ou tout de suite, tel que décrit, ça va créer des variants. Ça, c'est vraiment plus tordu comme raisonnement. Et ça s'applique pas comme aux bactéries. Fait qu'on va pas rentrer là-dedans parce qu'on aurait pour une grosse heure et demie de plaisir.
Mais c'est ce que disent certains. Réalité, ouais. Entre autres, Carl Weiss, le microbiologiste, disait que ça pouvait entraîner le développement de variants. Il dit pas aussi clairement que ça, mais quand même, là, c'est ce qu'on comprend de ces explications. Il y a certains.
Vous savez,
Isabelle, oui, docteur
Simon. Ce genre d'intervention-là dérive la question, c'est-à-dire que les gens savent qu'ils peuvent pas faire grand-chose à part ne pas voyager peut-être pour éviter le variant. Mm-hmm. Et ils se donnent donc l'espèce de permission de voir les chiffres monter à cause du variant. Alors que le variant, peu importe le type qu'on va avoir, si on se respecte les consignes sanitaires correctement, il n'y en aura pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Marquis. Écoutez, ça fait 20 ans qu'on se connaît, puis je pense qu'on n'a jamais été en désaccord. Ça dévie la question, puis c'est de là, on amène des hypothèses de travail dans la communauté générale, puis c'est dangereux, puis on l'a vu avec la colchicine récemment.
Oui, effectivement. Donc, si on résume, chez vous, et à Québec et à Montréal, aux soins intensifs, ça va un peu mieux que ça allait, mais vous dites aux gens, partez pas en peur, hein, Dr Marquis, c'est un peu ça?
Oui, nous, on a plus une stabilisation qu'une amélioration, mais c'est toujours une première étape. Faisons le travail correctement, continuons tous ensemble.
Voilà. Ben merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps. C'est vraiment très apprécié de vous entendre. Docteur Simon, merci. On salue les gens de Québec qui nous écoutent. Docteur Mathieu Simon est pneumologue. Docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Merci, François. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va revenir tout de suite après les nouvelles. Restez là.